Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Deuxième émission aujourd'hui consacrée à Grigol Perazzet, savant et saint. En compagnie de Bernard Routier, directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste des langues et littératures du Proche-Orient et du Caucase. Cette seconde partie de notre hommage à Grégoire Perazzet concerne la période de sa vie passée en Pologne, quand il est professeur de patristique dans ce pays, puis il y connaît le martyr en 1942 au camp d'Auschwitz. Alors Bernard Routier, pendant la première émission, on l'a vu, il est né en Géorgie, il a fait ses premières études là-bas, des études séminaires à la fois et universitaires, et donc des études ecclésiastiques, si je puis dire, et scientifiques, puis il passe en Allemagne. Et puis on le retrouve à Paris aussi comme pasteur et fondateur de la paroisse géorgienne qui est toujours là. C'est déjà très plein comme vie, hein, c'est ça. Et puis vous nous avez dit, à partir d'un moment, il enseigne en Pologne. Alors peut-être on va revenir là-dessus. Pourquoi la Pologne ? A priori, pour quelqu'un d'aujourd'hui, c'est pas évident, si vous voulez, qu'un géorgien qui est à Paris, qui est passé par l'Allemagne, enseigne en Pologne. Mais on...
Voilà, donc comme je l'ai dit, il a été invité en Pologne. Il est orthodoxe, il est un des savants les plus en vue du monde orthodoxe en Europe à cette époque. D'autre part, il y a une communauté géorgienne active en Pologne à cette époque aussi. Donc voilà ce qui explique qu'il va répondre à cet appel. Alors, en même temps, la Pologne est un pays catholique et n'est pas spécialement excitée à l'idée de développer un enseignement théologique orthodoxe, il faut le dire, et il n'arrivera jamais à être nommé professeur ordinaire. Il sera toujours professeur invité, suppléant, comme on dit à l'époque, mais bon, lui, ça l'a pas du tout gêné, il a enseigné dès le début. Alors, la première année, il a ouvert son enseignement en montrant les méthodes, les buts de la patrologie, puisqu'il était, il enseignait la patrologie, et l'année suivante, la théologie. Donc on voit très très bien, tout s'unissait très bien dans sa tête. La théologie, c'est la mise en forme de ce que nous ont enseigné les pères de l'Église. Il va être très attentif à ses étudiants. Ça, on me l'a raconté aussi de professeurs de l'Académie des sciences de Tbilissi à l'époque soviétique. Quand il voyait un étudiant qui manquait de quelque chose, ce professeur m'a raconté « Je mettais des billets dans un livre et puis je lui donnais le livre en lui disant « Tu dois lire ce livre pour ton travail ». Et là, on sait que le père Perazzet aidait les étudiants, ses étudiants polonais en difficulté.
Et je rappelle qu'à la même époque, il est prêtre à Paris. Hein,
tout à fait, oui, bon. Tout à fait. Et dès qu'il a un moment, il revient libre du point de vue académique, il vient à Paris.
Donc on voit le souci pastoral même dans l'exercice de son enseignement.
Ouais. Tout à fait. Et il enseigne en même temps, il continue en même temps la recherche en faisant ses voyages. Donc on a parlé du voyage à Latos et en Bulgarie. Il va aller trois fois en Palestine. Et il continue, oui, de comme je l'ai dit, d'étudier les manuscrits géorgiens en Europe, donc à Paris, à Londres et Oxford, et à Vienne et Graz, en Autriche. Et il va publier très vite des résultats de ses recherches, soit description de manuscrits pour les manuscrits anglais et autrichiens, et aussi donc cet évangile apocryphe qu'il a trouvé à Oxford, et une forme très archaïque de la liturgie de Saint-Jacques, de l'anaphore, donc palestinienne, en traduction géorgienne, trouvée dans un très vieux manuscrit conservé à Graz, qui provient du Sinaï.
Donc des travaux très importants pour l'histoire de la liturgie aussi.
Tout à fait. Il a toujours continué son travail, à la fois sur la patristique. Lévi des Saints, au mont Athos, il avait découvert une version grecque du martyr des saints Antoine, Jean et Eustache de Vilna. C'est Kekelidze avait publié en 1927 donc son répertoire de la patrologie traduite en géorgien et des textes hagiographiques la même année, en 1927. Donc il a suivi vraiment son maître sur tous ses terrains de recherche.
tout ce cheminement, évidemment, du père Peradze, au-delà de sa personnalité et de sa sainteté, bon, on va en parler, montre également l'importance, comme on l'a déjà dit, mais il faut revenir, des études géorgiennes pour l'histoire du christianisme et pour l'histoire des études byzantines. Et il y a quelque chose d'autre qui est très particulier avec lui, et je trouve qui fait de lui un chercheur moderne, si je puis dire, c'est que c'est une insistance sur les pères de l'Église et la recherche de textes patristiques. Parce que c'est à partir de là que nous avons l'évolution de la pensée chrétienne.
Tout à fait. Il n'a jamais lâché ce fil dans son travail. Et jusqu'à la fin de sa vie, il prévoyait d'avancer aussi bien dans le domaine liturgique, de l'histoire liturgique, puisque cette liturgie, les traductions géorgiennes les plus anciennes de la liturgie, que ce soit du lectionnaire ou de l'hymnaire, et aussi des liturgies, sont basées sur la liturgie grecque de Jérusalem, et non pas de Constantinople. Et on le sait plus ou moins clairement, pas très clairement, je pense pour la plupart de nos contemporains, cette liturgie de Jérusalem a été remplacée complètement, même en Palestine, par la liturgie de Constantinople à partir de la fin du Xe siècle. Et elle disparaît en grec. Alors c'est ça qui est le plus grave. Nous n'avons plus un lectionnaire grec complet de la liturgie de Jérusalem, un hymnaire complet, ça n'existe plus. Donc ce sont les traductions arméniennes pour le lectionnaire, arméniennes et géorgiennes pour le lectionnaire, et géorgiennes pour l'hymnaire qui nous conservent ces trésors.
Et voilà. Et là on voit bien que le père Peradze, pas encore ça, hein, le père Peradze y est pour beaucoup, hein, parce qu'il a vraiment collaboré.
Tout à fait, il a reçu cette ouverture de son maître Kakelidze, et il a toujours continué à chercher dans ce domaine, et à publier.
Alors, à partir de quand il publie vraiment beaucoup et devient, vous avez dit qu'il était devenu assez célèbre, mais quelle est la période la plus fructueuse, si je puis dire, au point de vue travaux publiés ?
1927-1939. Là, il écrit à la fois des articles très savants, des publications, mais aussi il écrit dans des dictionnaires, si vous voulez, des petites notices où il donne au plus grand nombre à connaître de ce qui est des trésors de la Géorgie en particulier, qui sont inconnus quasiment encore à l'époque.
Et en quelle langue publie-t-il ?
Alors, il publie essentiellement un peu en français, essentiellement en allemand, puisqu'il a enseigné quand même longtemps en Allemagne, et en polonais, puisqu'il enseigne en Pologne à partir de 1933.
Et parce qu'il parle pratiquement toutes les langues, hein, c'est ça, oui.
C'est phénoménal. C'est un génie magnifique.
C'est absolument phénoménal. Alors, est-ce que cette activité cesse d'elle-même ou l'arrêt de cette activité scientifique, si elle a été imposé par des événements politiques ?
Bien sûr, alors ce qui se passe donc en 1939, il y a cette invasion très brutale de la Pologne par les Allemands. Il se trouve qu'il était à Varsovie à ce moment-là pour reprendre ses cours et il reste en Pologne. Il aide les Juifs. Et il va être dénoncé, on pense par un Géorgien, malheureusement. Et le 4 ou 5 mai 1942, il est arrêté par la Gestapo et mis en prison, dans la prison Paviak à Varsovie. Là, il a un destin un petit peu particulier. Étant donné sa connaissance exceptionnelle des langues, il est traducteur. Donc c'est pas le pire des travaux qu'on peut se confier à un prisonnier. Mais quand même, il a faim. Et dans une lettre, il demande qu'on lui envoie du pain. Donc, il a souffert déjà dans cette prison. Et quelques mois après, en novembre, sans doute au milieu à peu près de novembre, il y a eu plusieurs convois de Paviak à Auschwitz. Il est envoyé à Auschwitz.
On va peut-être arrêter ici pour faire notre pause musicale et puis on va revenir à cette fin tragique, mais qui lui a peut-être valu aussi la sainteté, si je puis dire. Donc, c'est un extrait toujours de la liturgie géorgienne par le chœur Harmonie, dirigé par Nana Peradze. Tu es la vigne, c'est une hymne à la Vierge composée par le roi, éventuellement Demetre, un roi géorgien du XIIe siècle.
Thank you.
Hymne donc à la Vierge, tu es la vigne, composé éventuellement par le roi Démètre, donc un roi géorgien du XIIe siècle. Très bien interprété ici par l'ensemble Harmonie que dirige une autre Peradze, hein, Nana Peradze, voilà le même nom qui revient. Et nous sommes maintenant donc à la fin de cette vie, qui est cette fin absolument tragique. Le père Grigol Peradze arrive au camp d'Auschwitz.
Voilà, et à partir de ce moment-là, ben, ça va être très court, sans doute 3 semaines au maximum. On n'a plus aucune nouvelle particulière. Et c'est l'Église orthodoxe de Pologne va recevoir, un certain temps après sa mort, un télégramme des autorités allemandes disant « Le père Grigol Peradze est mort le 6 décembre 1942 à... » si j'ai bonne mémoire, 16h45, mais sans aucun détail. Si bien que pour le père Melia, qui a succédé au père Peradze, cette absence de détails était quelque chose de choquant et d'insupportable, à vrai dire, pour lui. Et chaque fois qu'il a eu, il enseignait à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, il avait un enseignement et il a eu plusieurs étudiants polonais et toujours il les chargeait de faire des recherches et de lui dire enfin ce qui s'était passé. Et c'est seulement le père Henryk Paprowski qui a obéi à ce souhait et cette injonction même du père Melia et qui a fait des recherches vraiment très approfondies. Malheureusement, il semble qu'il y a eu une volonté, alors est-ce que c'est de la part de la personne qui l'avait trahi, est-ce que c'est de la part des autorités allemandes, une volonté de cacher une partie des documents, si bien qu'on ne sait pas exactement les conditions de sa mort. La tradition, il y a eu 2 personnes qui ont témoigné après la guerre en disant « il a pris la place de quelqu'un qui était condamné à mort et il a donné sa vie pour cela ». Mais on ne sait même pas exactement de quelle façon il est décédé.
Donc il décède jeune en fait, hein, à 43 ans, c'est
oui,
ça
tout à fait.
C'est très jeune.
Tout à fait.
Et en prenant la place de quelqu'un d'autre, donc dans un camp de concentration.
Donc c'est vraiment, il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que de donner sa vie, comme dit
pour
Jésus.
Pour autrui, oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est le témoignage suprême, le témoignage, et c'est pour cela qu'il a été finalement proclamé saint et martyr par l'Église de Géorgie.
Ça, c'est en 1995, et je crois que l'Église de Pologne aussi, l'Église orthodoxe de Pologne...
Tout à fait,
a reconnu sa sainteté. Alors, ce processus après sa mort de reconnaissance, enfin, quelle est la réception de son travail scientifique d'une part, et puis aussi de sa sainteté, de ce témoignage d'amour chrétien très fort?
Il est mort, moi j'avais 1 an, je n'ai pas connu malheureusement le père Peradze, mais il se trouve que j'ai suivi une partie de son travail en devenant patrologue, orientaliste, et j'ai tenu absolument à faire mentionner chaque fois qu'il y avait la possibilité. Il y a eu un énorme répertoire qui a été fait par un savant byzantinologue, hellénophile et byzantinologue flamand, belge, Maurits Gerhardt, qui s'appelle « Clavis Patrum Grecorum », la clé des pères grecs. C'est un répertoire de chaque pièce ou chaque fragment patristique conservé en grec. Et j'ai tenu absolument à ce que toutes les indications qu'avait données, d'après Kekelidze, le père Peradze dans ses articles des années 1930 en Allemagne, dans la grande revue orientaliste allemande Oriens Christianus à l'époque, soient encore présentes pour le lecteur contemporain. Et nous avons, avec le père Paprotsky, republié ces articles sous la forme d'un volume, qui est le tome 4 de ses œuvres complètes publiées à Varsovie. Tous les volumes sont publiés en géorgien, mais ce tome 4 est publié sous la forme originale que lui avait donnée Grigol Peradze, c'est-à-dire en allemand.
Voilà, ce qui nous amène donc à parler un peu de la biographie. Qui évidemment, bon, il y a la biographie géorgienne et polonaise, hein, c'est bon, on va prendre des langues peut-être un peu plus proches de nous. déjà en français, pas grand-chose, je crois. Vous aviez déjà mentionné.
Alors, il y a quelques articles dans Le Muséon en particulier, qui est l'équivalent, disons, de Orient Christianus pour le monde francophone, qui est une revue qui paraît toujours, comme Orient Christianus, d'ailleurs, les deux grandes revues d'orientalisme du monde germanophone et francophone.
Donc, en allemand, ce qui existe, c'est des choses purement scientifiques ou ce sont également des choses qui
Il y a des articles évidemment purement scientifiques, mais il y a aussi donc des articles qu'on dirait aujourd'hui, mais sans du tout un sentiment de dépréciation, de vulgarisation, c'est-à-dire pour faire connaître justement dans, comme je le disais, dans les encyclopédies, faire connaître l'existence de choses qui autrement seraient inaccessibles.
Et puis la biographie est assez riche comme ça avec les publications allemandes, oui. Évidemment. Et, tout à fait. Et puis, évidemment, une autre, un paramètre, je veux dire, très important, c'est le fait d'avoir affaire à quelqu'un qui est un grand savant et en même temps un saint. Pour ma part, je trouve ça très important pour le 20e siècle, le 21e. On aime beaucoup, je dirais, les saints qui ont quelque chose de, enfin, qui sont un peu en dehors du monde, parfois c'est un follow Christ, vous avez. Et là, on a quelqu'un qui est dans la grande tradition des pères cappadociens, je dirais, hein. C'est Grégoire de Nazianz, Basile de Césarée, tout
voilà, ça, Jean-Christophe. Il est complètement lié à une paroisse, il est complètement lié à un enseignement scientifique, mais il le vit toujours comme un chrétien complètement engagé dans son christianisme.
Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans la réception des études géorgiennes de ses propres travaux, sauf l'importance évidemment du fait qu'il a initié beaucoup de choses.
Alors, il reste encore justement ce texte absolument unique qui est cet évangile apocryphe, tout à fait étonnant, qu'on ne trouve. Alors là non plus, il est probablement traduit de l'arménien, même presque certainement, et il n'existe plus en arménien. Comme beaucoup de textes qui ont été traduits du grec, qui n'existent plus en grec. Donc ça, il y a quelqu'un qui est en train de le traduire en allemand. Il a été traduit donc par le père Peradze en polonais. Il a été republié par le père Starowiecki, qui est un catholique, père prêtre catholique, qui a publié un gros recueil d'apocryphes en Pologne, en polonais. Il a repris la publication du père Grigol. Je pense qu'il n'a pas été traduit en anglais à ma connaissance, bien qu'il soit conservé à Oxford, l'original.
Et pour terminer, peut-être deux mots sur vos propres travaux, Bernard Routier. Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS. Ça fait un moment que vous êtes, si je puis dire, honoraire, mais vous n'avez pas arrêté le travail scientifique.
Pas vraiment.
Fort heureusement, oui. Et vous continuez. Donc, deux mots sur vos travaux très récents.
Alors, les travaux qu'il y a en ce moment, parce qu'il y a des travaux, en particulier en géorgien, continuent à publier des tas de fragments et à les réunir, parce que quelquefois on trouve des fragments qui sont reliés comme feuilles de garde dans des manuscrits, quelquefois d'autres langues, ça peut être les Arméniens ont vraiment aimé bien préserver le début et la fin de leurs manuscrits, donc ils mettaient des feuilles de garde pour éviter le frottement avec lait de bois qui s'ouvrait et se fermait à chaque fois qu'on utilisait le manuscrit, et donc on peut trouver à peu près 200 ensembles de feuilles de garde actuellement géorgiennes dans le monde. Et puis il y a des palimpsestes. Je vais faire une communication en juillet sur un fragment qui a été inséré pour compléter un manuscrit atonite et qui a pour cela lavé un feuillet de Ménée géorgienne, traduite du grec par Georgi, la géorite. Et maintenant, j'ai pu découvrir quel était le texte inférieur.
Voilà, on est vraiment dans l'histoire des textes. Alors, Bernard Routier, un très grand merci. Et puis, évidemment, toujours une pensée pour ce savant et saint Grigol Peradze qui a laissé un souvenir si fort. C'était aujourd'hui la deuxième émission sur lui, intitulée « Professeur en Pologne et martyr à Auschwitz ». Et puis, évidemment, on peut toujours passer à la paroisse géorgienne de la rue de la Rosière dans le 15e arrondissement de Paris, qui est la suite de son travail pastoral. Et nous sommes sur les traces, donc, de son passage à Paris. Merci beaucoup. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Delphine Baudet. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau.